La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Aujourd'hui, nous nous replongeons dans la suite des titres de jazz, de leurs dictionnaires et de leurs anecdotes. Et ça va nous permettre d'évoquer plusieurs événements importants. Et le premier qui nous vient dans la liste d'aujourd'hui, c'est la grande parade du jazz de Nice.
Et oui, malheureusement, c'est fini et depuis longtemps.
Hélas.
C'était un événement totalement mondial. Il y avait là les tout meilleurs pendant, rendez-vous compte, 15 jours.
C'était un concept tout à fait particulier. Ça se passait aux arènes de Cimiez et là, il y avait trois lieux simultanés. On pouvait entendre du jazz aux arènes, on pouvait entendre du jazz dans un podium en recul par rapport aux arènes qui s'appelait la danse stage, la scène de la danse, parce qu'on pouvait y danser d'ailleurs. Et le troisième endroit était un petit peu plus loin, c'était un podium qui regardait une immense pelouse et qui s'appelait le garden stage, la scène du jardin. Et le spectacle changeait toutes les heures, et donc à l'entrée, on donnait aux gens une grille de spectacle. C'est-à-dire, vous pouvez faire votre planning de la journée à partir de 10h ou 11h du matin jusqu'à minuit. Changer toutes les heures d'endroit pour écouter ce que vous avez envie d'écouter, selon le style que vous préférez.
Et combien il y avait de musiciens ?
Oh là là, il y en avait une foultitude, il y avait plusieurs centaines. Parce qu'entre les orchestres et les vedettes, ça faisait un monde absolument fou, qui séjournait d'ailleurs collectivement dans un palace qui s'appelait le Beach Regency, et qui était relié au site du festival par une navette célèbre chez les musiciens.
Et vous voyez qu'on les traitait bien, hein ?
Où on était très très bien traité à la grande parade du jazz, et c'était un endroit techniquement extrêmement affûté. C'est-à-dire que les sonorisations, les retours sur scène, il n'y a aucune balance, ça se faisait au vol par des types hyper compétents. Et c'était très minuté en plus.
Tout ça était coiffé par un homme tout à fait exceptionnel, George Wynn.
George Wynn était un organisateur, manager, impresario, agent artistique, tout ce que vous voulez. Mais il est surtout connu comme le fondateur du fameux festival de Newport. Et puis, il a organisé après les grands festivals de Nouvelle-Orléans, de Tokyo et encore bien d'autres. Et donc, celui de Nice était quand même très important et tenait une grande place dans son esprit parce qu'il avait une maison pas loin et il en profitait pour passer ses vacances.
Oui, cet Américain, c'était un amoureux de la France.
Et c'était également un excellent pianiste de jazz qui a entretenu toute sa vie un environnement de très bons musiciens. Dans les années 80, il avait fondé un orchestre qui s'appelait le Newport Festival All Stars. Et c'était vraiment le gratin des musiciens. Et justement, à Nice, il programmait le gratin des musiciens de l'époque. Et on a pu entendre, grâce à lui en France, parce que ça a dérapé un peu sur d'autres festivals secondaires, on a pu entendre des musiciens qu'on n'aurait jamais pu entendre autrement, en direct et vraiment tels qu'en eux-mêmes. Et en voici justement un.
Il s'agit de Claude Hopkins.
Hopkins, pianiste et chef d'orchestre d'un excellent orchestre des années 30 d'ailleurs, était toujours aux affaires à l'époque de la grande parade du jazz de Nice. Il est venu y jouer et il en a profité pour enregistrer à côté, pour la maison Black & Blue, un album qui s'est appelé, je crois, Safari Stomp, et duquel nous extrayons naturellement un blues.
Alors là, petit jeu de mots.
Ah oui.
Il s'appelle Nice Blues. Ça, c'est prononcé en américain. Mais si vous le lisez en français, c'est Nice Blues.
Qu'est-ce qui est vrai ? Est-ce que ce titre veut dire le blues charmant, sympathique, gentil, etc. ou le blues dédié à Nice ? Eh bien, à notre avis, les deux choses sont vraies.
Thank you.
Voici maintenant The Nitty Gritty.
C'est de l'argot, hein, l'argot américain noir, qui dit « Oh ben, c'est simple, c'est pas compliqué, c'est direct. »
C'est pollué par rien.
Eh ben, c'est justement le style d'Arnett Cobb. On peut dire le blues sans fioritures.
Ah oui, oui, ils font pas dans la dentelle quand ils jouent Nitty Gritty. Soulignons que Arnett Cobb est un musicien originaire du Texas et que justement, les musiciens originaires du Texas ont généralement ce point commun, ils ne font pas dans la dentelle.
C'est les vrais cow-boys du blues.
Et nous avons bien connu un autre saxophoniste ténor texan, Buddy Tate, qui était exactement, justement, dans la même veine. Voilà, le blues direct, fondamental, et comme dit le commentateur du dictionnaire des titres, « The Basic Situation ».
Vous savez, dans les titres, les musiciens américains de jazz s'amusent souvent à parler de leur vie courante. Et c'est c'est assez intéressant parce que au lieu d'appeler ça comme d'autres peuvent dire le morceau de Pascal ou le morceau de Violaine ou le morceau de, eh bien, eux, ils parlent de leur vie. Et là, Olsius va vous parler des transports.
Alors, tout le monde connaît naturellement l'indicatif de Duke Ellington au concert que nous avons pu entendre dans les années 60 ou 70 qui s'appelait Take the A-Train, c'est-à-dire prenez la ligne A. La ligne A à New York, c'est la ligne de métro qui mène à Harlem. Olsius, lui, il allait à Harlem où il en sortait par une autre ligne, parce qu'il y a une autre ligne qui va dans le Bronx après d'ailleurs.
Et c'est la ligne D, D-Train. Donc, il disait, pourquoi toujours la A-Train? Mais prenez donc la D-Train. Now, ride the D-Train. Maintenant, eh ben, prenez la ligne D.
Bah, après tout, on peut toujours essayer. Passons maintenant à la lettre O. Et le premier titre qui nous parle dans cette lettre O, c'est...
Okidoki, stomp.
Okidoki, c'est très simple, c'est une sorte de formule toute faite qu'utilise n'importe qui te dit « d'accord, on y va ». Par exemple, tu prends un taxi, tu dis où tu vas, et le chauffeur répond « okidoki », et puis il s'en va. Ça se passe d'ailleurs aussi bien à Londres qu'à New York, hein. C'est très anglo-saxon. Mais là, l'intérêt, c'est que c'est joué par Clarence Gatmouth Brown, éminent guitariste de blues et chanteur.
Rappelez-vous que Gatmouth, c'est-à-dire la bouche en forme de porte cochère, c'était aussi un des surnoms de Louis Armstrong.
Ah oui, il partageait avec Louis Armstrong ce Get Mouse Brown, la très large dentition qui apparaissait lorsqu'il souriait. Ça, c'est certain. Et alors, il avait une particularité, c'est qu'en plus de la guitare que vous allez entendre, il jouait aussi du violon. C'est beaucoup plus rare de l'entendre au violon, mais il jouait du violon.
Et oui, et le violon, c'est franchement souvent dans le jazz anecdotique. Mais ce Get Mouse Brown, il était vraiment rigolo, il avait beaucoup d'humour. Et un jour que le duo Verdot-Brigaud l'interviewait, il leur a fait une petite démonstration rigolote.
Il a sorti son violon et il m'a dit « Votre nom de famille, c'est quoi ?» J'ai répondu « Verdot ». Alors il a pris le violon et il a joué « Verdot ». On entendait pratiquement le nom quand il jouait. C'est très très curieux. Après ça, il se tourne vers Dominique et il lui dit « Et vous là ?»« Brigaud », dit Dominique. Et il a joué Brigaud sur son violon. On a bien rigolé, c'était très amusant. Et en plus, on a appris beaucoup de choses ce jour-là avec cette interview sur la manière dont fonctionnent les chanteurs de blues. Et là, eh bien, nous allons entendre ce cher Get Mouse Brown dans un disque qui a été un grand succès d'ailleurs à l'époque. Parce que le titre principal de 45 tours s'appelait « Depression Blues ».
Oui.
Peut-être.
C'est pas un cadeau.
Peut-être, c'est la raison du succès. En tout cas, dans ce 45 tours, il y avait ce très chouette « Okey Dokey Stomp ». Maintenant, tu penses au haut lieu du spectacle à Paris et tu te dis haut comme
Olympia, bien sûr.
Eh oui, l'Olympia Music Hall qui a accueilli tant de concerts de jazz, tant de grands musiciens et où nous avons beaucoup, beaucoup usé nos fonds de culotte sur les sièges du balcon, quelquefois de l'orchestre, parce que vous savez, quand vous êtes à un concert depuis le balcon, en première partie, vous voyez toujours au premier rang des places libres que personne ne prend jamais parce que ce sont les invités de marque. Vous avez remarqué que dans les grandes circonstances, les invités de marque sont toujours absents et qu'il y a toujours quelqu'un qui dit « Monsieur Intel s'excuse, il a d'autres obligations, etc. etc. »
Ah mais tiens, ça me rappelle quelque chose pour les...
Ah, S'il vous plaît. Pas de polémique à cette antenne. Et là, comme il n'avait pas à s'excuser, les invités de marque, leur place restait vide. Donc, à l'entracte, ayant repéré depuis le balcon les places en question...
Nous, petits qui avions des places pas chères, on se précipitait discrètement vers le bas... Et on s'y asseyait, personne ne nous a jamais rien dit. Donc on voyait très bien.
Ah oui, on voyait très très bien. D'ailleurs, c'est très simple. Je ne veux pas dire qu'en allongeant la main, on aurait pu toucher la batterie de Lionel Hampton, mais c'était pas loin, ou son vibraphone. Et là, justement, il s'agit de Lionel Hampton à l'Olympia. Il faut vous dire que Lionel Hampton à l'Olympia, il a fait beaucoup de morceaux. Il a fait un morceau dédicacé à Patricia, la fille de Bruno Cocatrix. Un autre morceau dédié à Paulette, la femme de Bruno Cocatrix.
Il était malin. Heureusement qu'il n'y avait pas 25 personnes dans cette famille.
Et naturellement, le jour où il a terminé son concert avec son fameux Flying Home, le disque s'est appelé
Flying at the Olympia.
We'll be right back.
La lettre O, c'est la lettre de Cy Oliver, formidable trompettiste, formidable arrangeur qui a marqué l'orchestre Jimmy Lunsford d'une manière totalement indélébile. Je dirais même consubstantielle.
Je vais vous dire, je pense qu'à ce moment-là, l'orchestre de Jimmy Lunsford, qui va jouer On the Beach at Bali Bali, il devait faire très froid à New York. Il devait vraiment avoir envie, vous savez, de sable blanc, de mer bleue, de soleil absolument éclatant.
Jaune.
Jaune.
Et de palmiers.
Vert.
Mais curieusement, On the Beach at Bali Bali ne figure pas dans le dictionnaire des titres car il n'y a absolument aucune anecdote précise à raconter avec. Mais nous l'avons pris en sandwich dans la liste que nous avons retenue. C'est juste pour le fun parce que dans ce morceau, il y a un vocal de Cy Oliver, parce que non seulement trompettiste mais également chanteur, un vocal absolument rythmiquement tout à fait extraordinaire. Voilà, c'est tout bête. Hein. Allez, après.
Partons pour Bali Bali.
I'd meet the girl who used to live next door to me. And now we have a cottage in the valley. And a little something else that's hers and mine. It started on that beach at Bali Bali. And ended up way down in Carolina.
Suivant, oh ben, il parle encore de chaleur, de beau temps, parce qu'il parle de singes. Et le titre, c'est « One monkey don't stop no show », ce qui veut dire
« Un singe n'arrête pas un spectacle ». C'est une expression que j'ai entendue la première fois dans la bouche de notre chanteuse Carol Lee, qui était américaine, et nous nous trouvions aux prises avec je ne sais plus quel obstacle qui commençait à nous pourrir la vie pour un concert, je ne sais pas, un caprice de sonorisateur, d'éclairagiste, de je ne sais pas, je ne sais plus du tout.
Un empoisonneur.
Un enquiquineur. Je commençais vraiment à monter en mayonnaise, et Carol me dit « Don't worry, One Monkey Don't Stop No Show. Ce qui veut dire, à peu près finalement...
Allez, restons cool. Les chiens aboient, la caravane passe.
Ici, la caravane qui passe, c'est Big Mabel et sa manière extrêmement solide et directe d'aborder les choses.
Baby jumped up this morning and sat on the side of the bed. He said, I'm leaving you, baby. And this is just what I said, I can't make you stay if you want to go. But it's high time, baby, that you should know. When a man leave him dry long slow, but I found out something long time ago. One monkey don't stop the show. One monkey don't stop the show. So when he get too big for his pants, get a spring brand new one and give him a chance. Chicken hearted and crying when he'd walk out the door, 'cause I was just young and simple. Ha! Ain't like that no more. 'Cause I had a hard way to go before I learned to school. But I'm here to tell you, and I should know.
C'est assez étonnant dans cette liste parce qu'on rencontre un peu de tout et on rencontre beaucoup de gens très intéressants. Voici Orson Welles, le morceau s'appelle en toute simplicité Orson.
Et c'est Duke Ellington qui l'a appelé comme ça parce que Orson Welles était quelqu'un qui était d'abord un fan de jazz. C'était un homme de radio et qui avait plusieurs émissions, dont une de jazz. Celle que on a le plus connue qui l'a fait devenir célèbre, en tous les 40 ans, comme de radio.
Mais célébrissime, c'était un
ça a été
terrible.
Un gag incroyable. Il a annoncé à la radio l'arrivée des Martiens.
Avec un reportage en direct, la panique, enfin la guerre des mondes, quoi. Et ça a flanqué aux États-Unis une panique absolument extraordinaire. Et bah voilà, bah c'est comme ça qu'Orson Welles a commencé à se faire connaître, d'ailleurs. Mais côté jazz, c'est un personnage important parce que non seulement il était fan de jazz, mais en plus, il était sélectif et il avait un goût extrêmement sûr. Et puis, il avait l'oreille à la musique comme il avait l'œil au cinéma.
C'était un vrai amoureux du jazz New Orleans. Il a contribué à remettre un peu en selle le jazz New Orleans qui avait un peu baissé de pied, disons.
Oui, c'est sûr, il avait même complètement disparu à la fin des années 30. Et d'ailleurs, c'est le détonateur de la renaissance de Nouvelle-Orléans. Au départ, ça a été les fameux disques Tommy Ladnier, Sidney Bechet, Milton Mesereau, des Panacea Sessions, illustre série qui fut notre pile de disques de chevet quand nous étions juvéniles. Et donc, Orson Welles, lui, dans son émission de radio, il a fait venir régulièrement l'orchestre de Kid Ory. qui était un très très bon orchestre. Grâce à cette émission, nous avons une trace de l'orchestre de Kidori avec Jimmy Noon à la clarinette, figure-toi. C'est une rareté extraordinaire parce que Jimmy Noon est mort très, très rapidement après. Mais là, on en revient à Orson Welles et à son portrait musical par Duke Ellington. Donc, comme tu disais tout à l'heure, ça s'appelle...
Orson. Et le suivant s'appelle Panonica. Naturellement, ça vous dit absolument quelque chose. Allez, allez. Panonica. Oh, il faut dire son nom en entier. Hein.
Ah oui, oui, oui. Car on rencontre toutes sortes de gens dans cette émission et dans cette liste de titres, comme nous vous disions tout à l'heure. Il s'agit de la baronne Panonica von Königswarter.
Peste. Avec un nom pareil. Hein, on peut faire des choses dans la vie.
D'autant plus que la baronne en question était un membre richissime de la branche anglaise des Rothschild.
Ah, excusez du peu.
Alors c'est une autre baronne de Rothschild, on en a connu quelques-unes. Et là, cette brave dame, elle est venue s'installer au début des années 50 à New York, dans l'hôtel le plus huppé de New York.
Où elle recevait énormément de musiciens de jazz, au point que le fameux Charlie Parker, eh ben, il est mort dans cette suite.
C'était la suite princière de l'hôtel. Voilà. Oui, oui, elle avait recueilli Charlie Parker. Et on raconte que lorsque Charlie rendit le dernier soupir, un énorme boom retentit dans l'hôtel Stanhope, analogue à celui qui avait accompagné la mort de Beethoven.
Eh ben, dites donc.
Hein? Bon, cette baronne, elle avait une particularité, c'est que tout musicien qui débarquait chez elle devait répondre à une question, ou plutôt une triple question. Quels sont les trois vœux que vous avez à formuler ?
Il faut quand même savoir que s'ils ne savaient pas répondre, on ne leur coupait pas un bout de bras ou de jambe comme le sphinx le faisait.
Hein ? Ah non, non, mais attends, ils ont toujours su répondre à ces trois vœux. Quel est votre vœu le plus cher ? Vous en avez trois. Ah ben, ils ont toujours su répondre. Et tellement de musiciens ont répondu à ces vœux qu'on a fini par en faire un livre.
Les trois vœux, des musiciens de jazz.
Chez Madame Panonica, Von Koenigswarter. Et bien voici, je crois que le morceau de Thelonious Monk, il est joué par Paul Gonzalves, saxophoniste ténor et Clark Terry, trompette ou bugle. Il s'appelle naturellement Panonica.
Thank you.
Tu as remarqué que nous sommes passés insensiblement par la faveur de cette chère baronne du O au P. P comme
Paradise Quat.
Le Paradise était une boîte qui se trouvait à Atlantic City. Alors, pour faire court, nous dirons que Atlantic City est un peu à New York, ce que Deauville est à Paris, hein, pas très loin, et au bord de la mer.
Et Squat, ah là là, vous vous souvenez qu'on vous avait souvent dit qu'il y avait des tas de danses nouvelles, il fallait toujours qu'il y ait quelque chose de nouveau. C'est très américain, mais c'est bien européen aussi. Hein. Et là, le squat, il fallait s'accroupir, qui prouve que c'était des gens jeunes qui n'avaient pas de problème d'articulation. Ils devaient s'accroupir et se tortiller en même temps.
Oui, ce tortillage de hanches accroupi nous mène tout droit à notre célèbre danse des canards. Nous n'allons naturellement pas vous diffuser la danse des canards dans cette émission, mais c'est un peu l'équivalent. Sauf que là, c'est joué par Count Basie et son orchestre. Sauf que Basie, il tient l'orgue et pas le piano, ce qui est très rare. Sauf que Basie, il tient l'orgue d'une manière absolument formidable. Paradise Squat. Tu as de la chance, voici venir ton saxophoniste alto favori.
Earl Bostic. Ah oui, j'aime Earl Bostic parce qu'il est simple, il est punchy, il joue rond. Ah, c'est plaisant tout ça.
Et puis alors, il joue direct. Hein. Et puis là, on sent vraiment qu'il n'y a plus qu'à se mettre à danser quand Earl Bostick a embouché son saxophone alto. Le morceau, lettre P oblige, s'appelle...
Pinky. Pink, vous savez, en anglais, ça veut dire rose. Et Pinky, c'est une manière un peu ironique de parler des personnes noires qui veulent se blanchir la peau pour être plus blanches qu'elles ne sont au départ. C'est à la fois amusant et un peu triste de penser que certains voulaient à tout prix se blanchir, alors que nous, les Blancs, quelquefois, on veut absolument brunir. On se dit, on n'est jamais content de la couleur qu'on a. Hein.
Bon. Il y a de ça, il y a de ça. Et d'ailleurs, je me rappelle cette époque, à l'époque où ce morceau était enregistré, le magazine Ebony, qui était un magazine destiné à la communauté noire, était plein de réclames pour se décrêper les cheveux, se blanchir la peau, s'éclaircir le teint. Et effectivement, c'était un petit peu tristounet. Et d'ailleurs, ça menait à des excès très, très connus, puisque c'est là qu'on trouve naturellement...
Michael Jackson et sa transformation totale, qui s'est plutôt mal terminée quand même. Hein.
C'est juste. Ouais. L'obsession, c'est quand même jamais très bon. Et tout ce qui est excessif, comme disait ma grand-mère, étalerant réuni, est insignifiant. Pinky. Nous allons terminer cette émission, non pas en queue de poisson, mais...
En queue de poney, c'est-à-dire en queue de cheval. Ponytail.
Qu'est-ce que c'est que la ponytail?
C'est une coiffure.
Eh ben oui.
Les cheveux crépus, on les décrêpe.
Après quoi, on les laisse pousser. Et comment est-ce qu'on se coiffe?
Eh bien, en queue de cheval.
Et voilà. Alors, Count Basie, qui était un fin observateur de la chose féminine et des chevelures qui vont avec, sur un arrangement de Neil Hefti, a enregistré ce morceau en hommage à la queue de cheval. Et il s'appelle donc...
Ponytail. C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.